Parlant de game, on vous en présente une ce soir sur les zones de BPM Sport, alors que Sidney Fowo sera à l'analyse du match entre le CF Montréal et l'Union de Philadelphie. Avec tout ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, tout ce qui s'est dit, disons qu'une victoire ferait du bien au CF Montréal, mais le défi est grand, très très grand. Il faut appeler un chat, là. C'est la pire équipe de la MLS contre la meilleure équipe de la MLS. Alors, Sid, c'est David contre Goliath ce soir, en plus à Philadelphie.
Et c'est drôle, c'est que ces deux équipes qui, on en parlait un petit peu hors onde, ont des masses salariales qui sont plus ou moins similaires, même si parfois le coût d'acquisition des joueurs n'est pas pris en considération, et ça fait une grosse différence lorsqu'on fait que l'analyse de la masse salariale. Une équipe comme Philadelphie est devenue tranquillement pas vite un des standards dans la conférence Est, contrairement à Montréal, qui aurait pu s'installer un petit peu là, autour de 2021-2022 et qui a de plus en plus de difficultés à être performant sportivement. On parle de transition, on peut parler même de crise. Il y a une équipe montréalaise qui se cherche et qui a besoin de soutien, qui a besoin de renfort. Et le 24 juillet, la date officielle d'ouverture du mercato, elle semble loin pour le CF Montréal qui devra faire avec ce qu'il a, avec les moyens du bord, pour aller chercher une victoire ou allez, un point en Pennsylvania Valley contre une équipe de l'Union, comme tu l'as dit, qui est simplement la meilleure équipe en ce moment dans la Ligue.
Tu parles de mercato. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être actif sur un mercato en cours de saison, sachant très bien qu'il n'y aura pas de championnat canadien et qu'il n'y aura pas de série MLS?
Il y a l'idée de préparer dès maintenant 2026. En parlant de 2026, je ne vais pas mettre de côté le fait qu'il y a encore la Leagues Cup, qui est donc ce championnat entre les équipes mexicaines et américaines dans lequel le CF Montréal est engagé. Ce sera compliqué d'aller jusqu'au bout, mais en même temps, il y a dans le projet montréalais bien faire dans cette compétition-là. Pour ce qui est des playoffs et des séries, on va pas se compter des histoires. C'est très 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 compliqué. Il faudrait que les étoiles soient alignées parfaitement sur tout l'horizon pour que Montréal arrive à quoi que ce soit. Donc on peut l'oublier, mais ça veut pas dire que tu dois pas mettre en place les échelons de ton projet sportif, cette fameuse reconstruction dans laquelle t'es engagé avec Marco Donadel, certes entraîneur par intérim, mais qui est le choix de la direction, nouvelle direction avec les enfants Saputo qui sont maintenant présents quotidiennement dans le club. On a des nouveaux joueurs comme Assoun Camara, comme Alexandre Panton. On met en place une nouveauté, un changement, et ça va s'incarner aussi par ce mercato à venir. Donc JP, moi je pense que même si les objectifs sportifs sont loin, ça n'empêche pas aujourd'hui de mettre en place les échelons pour performer.
T'sais, tu nous parles de bâtir pour la prochaine saison. Je regarde la fiche promotionnelle de la rencontre de ce soir. On voit Sinchuk, on voit Escobar. Est-ce que c'est sur ça qu'on bâtit pour la prochaine saison? Du côté du CF Montréal, qu'est-ce qu'on veut créer pour le reste de l'année?
t'as l'œil, Jacob, t'as vraiment l'œil. C'est ça, c'est des joueurs qu'on sait à fort potentiel. Donc Sinchuk, c'est un gros investissement qui a été fait. Malheureusement pour lui, il n'a participé qu'à 6 matchs. Mais le jeune milieu ukrainien, c'était un des plus gros investissements qui a été fait à l'hiver dernier. Il s'est blessé à plusieurs reprises, donc il n'a pas pu donner son plein potentiel. Mais on l'a vu là au dernier match. Il est doué, le kid. Il est vraiment doué. Et puis c'est un joueur qui, sur le long terme, va assurément apporter au CF Montréal vraiment un gauche très très fin techniquement. Escobar, c'en est un autre. Escobar, il a fait la Gold Cup avec son pays et avec le Guatemala, et il a été élu meilleur jeune joueur de la compétition. C'est pas rien. C'est un titre qui avait été déjà donné à un Tejan Buchanan, qui est aujourd'hui titulaire en équipe canadienne et qu'on connaît tous, qui a joué à Bruges ou à Milan. Donc, tu as des jeunes joueurs à fort potentiel qui incarnent le futur, peut-être le présent, et peut-être c'est là où il y a cette espèce de parfois un peu de tension avec les partisans, c'est qu'ils sont pas encore assez mûrs pour vraiment incarner le présent. Ils devraient être entourés par des joueurs un peu plus expérimentés. C'est pas le cas. Néanmoins, ces deux joueurs-là, comme c'est pas pour rien qu'on va commencer à les voir mettre de plus en plus vers l'avant. Tu peux ajouter à ça des Dante Cilli, tu peux ajouter des Brandon Craig derrière. Siroy, il est pas vieux là, comme c'est encore un autre comme sur lequel qu'on peut compter. De toute façon, personne n'est vieux dans cette équipe, et c'est finalement ce nouveau virage qui a été pris par le CF Montréal.
Puis, tu parles de Marco Donadel. Ce soir, affronte une équipe qui est extrêmement physique, une équipe qui est au sommet de son art en ce moment, on disait, premier au classement. Ça va être quoi le plan de Donadel? Qu'est-ce qu'il doit aligner sur le terrain là, pour essayer de rivaliser avec une des puissances de la MLS?
C'est compliqué. Hein. Je lui ai posé la même question en conférence de presse. Et, bon, la réponse était un petit peu floue. On veut à la fois pas le dévoiler ses cartes, mais en même temps, est-ce qu'on a les moyens vraiment de ses ambitions contre une équipe qui, à la fois dans le pressing, est agressive, joue très haut, joue physique, comme tu l'as dit, qui a plusieurs options pour marquer des buts et qui, défensivement, ben, c'est la meilleure défense de la Ligue. Donc, à un moment donné, comme il y a beaucoup d'éléments qui sont en défaveur de Montréal, sur une place, là, le Subaru Park. D'ailleurs, c'est très, très joli. Genre, comme vous allez voir ce soir sur Apple TV, lorsqu'on voit le stade, on a vraiment l'impression qu'il est au pied du pont Jacques-Cartier.
Il est près du pont de Philadelphie, sous le pont. Hein,
visuellement, ouais. C'est comme, je ne sais pas si c'est le même architecte, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez fascinant lorsqu'on voit ça. On se dit, est-ce qu'ils sont à Montréal, à côté de la ronde, là? Mais non. Pour le coup, c'est un stade dans lequel Montréal a vraiment très peu de succès depuis son entrée dans la Ligue. Donc, tout ça, pour rebondir sur ce que disait JP, c'est mission quasiment impossible pour Montréal. Mais qui dit mission impossible dit parfois surprise. Ça a été le cas à Houston, sur le terrain de Houston, où Montréal est parti chercher les 3 points. Ça a été le cas à New York CFC, comme au Yankee Stadium, où Montréal est allé chercher les 3 points. Ça, c'est 2 places typiquement où tout le monde indiquait une défaite montréalaise. Ça n'a pas été le cas. Et même le match nul, là, il y a quelques jours contre Orlando, l'une des meilleures aussi équipes de l'Est, ben, c'est pas comme si on voyait Montréal aller chercher des points. Ils l'ont fait, donc allez, on ne va pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir acheté et tué. Donc, pour l'idée, pour Montréal, vraiment, si on reste compact, solidaire et opportuniste offensivement, allez, pourquoi pas.
Jake me fait des jeux pour qu'on aille à la pause. Si tu permets, Sid, on va couper le segment en deux. Parce qu'au retour de la pause, tu parlais d'Assoun Camara. Je suis curieux, est-ce qu'il a déjà entamé ses nouvelles fonctions? Est-ce qu'on le voit déjà dans l'entourage de l'équipe?
Oui, on a eu d'ailleurs la chance de le recevoir dans notre avant-match YouTube, là, sur BPM, et on a pu discuter avec lui. Et c'était vraiment, il est là, en portant ce nouveau projet de communication, de storytelling, pour prendre un mot qui est à la mode en ce moment. C'est intéressant de le voir aller avec ses idées. Puis, bon, on en rediscutera après la pause. Oui.
Parce que c'est un bon vendeur, c'est un bon communicateur, c'est un bon vendeur, C'est un rôle d'ambassadeur pratiquement qu'on lui a donné.
Je suis content que tu emploies ce terme d'ambassadeur, parce que vendeur, parfois, c'est une petite connotation, mais il incarne aussi quelque chose. Il incarne aussi l'ambition, l'identité, la performance. Il incarne beaucoup de choses chez les partisans. On parle aussi d'émotion, ce qui est ce lien qui est assez spécial dans le monde du sport. Donc, il incarne en tant qu'ambassadeur un message qui doit être véhiculé, qui doit être poussé, et c'est une grosse tâche pour lui, parce que sportivement, ça va pas bien. Et aussi, je te dirais un peu plus que ça, on comprend pas vraiment ce que veut mettre en place le club. Donc, t'as besoin de ce type de personnage pour renforcer le message et la vision des dirigeants.
Et pour vulgariser pour le public, là, tu sais, d'être capable de faire le pont par son expérience de joueur et de l'information qu'on lui donne à l'interne et de la transmettre au public. Alors, ça tu vois, j'ai trouvé que c'était un des bons coups du CF cette année. On va prendre une petite pause. On revient avec l'analyste Sidney Fowo, qui d'ailleurs sera à l'analyse du match de ce soir entre le CF Montréal et l'Union de Philadelphie. Oui, la game du 16 juillet, il est midi 33 minutes. Ce soir, le CF Montréal reprend l'action avec un match face à l'Union à Philadelphie, là où historiquement ça a toujours été très compliqué pour le 11 montréalais. On a le plaisir d'avoir en studio avec nous Sidney Fowo, l'analyste des matchs à BPM Sport. Toujours là, Sidney. Ben forcément, forcément, t'es devant moi avec... t'es toujours là.
Au poste.
Oui, tout à fait. Écoute, j'ai des petites questions des auditeurs pour toi sur la messagerie texte. Il y en a un ici, Nicolas, qui me dit peux-tu demander à Sidney pourquoi on ne fait pas jouer Escobar dans la rencontre de ce soir?
Alors, bon, ça, on ne sait pas s'il ne va pas jouer ce soir, là, Nico, mais pour le coup, c'est vrai que ça a mis un peu de temps avant qu'on estime qu'il soit en forme de match. Et ce qui était paradoxal, c'est que lorsqu'il a été en forme de match, ben, on a décidé de l'envoyer à la Gold Cup. Enfin, pour être plus précis, lorsqu'une équipe nationale sélectionne un joueur, le club n'a pas le choix d'accepter sa participation dans la compétition ou dans le match. Donc, au moment où, effectivement, Escobar, lui qui venait de la MLS Next Pro, on parle d'un kid de 18 ans, il est vraiment vraiment qui avait jamais joué au niveau professionnel en MLS. Donc, à partir du moment où il était prêt physiquement, il est parti au tournoi, il a bien fait. Puis là, maintenant, il est de retour. Et on l'a vu sur un bon 45 minutes où il a été très impactant, milieu créatif, capable de jouer entre les lignes, avec du caractère. Il a pris un tir de 25 mètres qui démontre que, voilà, qu'il y a un esprit d'initiative. Et maintenant, il va faire partie des outils, des solutions qu'a Marco Donadel pour attaquer un match. Est-ce qu'il est prêt à commencer ? Peut-être pas, mais en tout cas, comme aujourd'hui, il est clairement dans les plans de l'entraîneur-chef.
J'ai aussi une question de l'animateur Jean-Philippe ici qui te demande qu'est-ce qui arrive avec George Campbell? Est-ce que... parce que je pense qu'il n'est pas du voyage, il n'a pas fait le vol vers Philadelphie, mais le transfert, est, de ce que je comprends, il n'est pas officialisé. Là.
Non, alors c'est vrai qu'il y a un temps médiatique qui est souvent plus rapide que le temps administratif. Et donc là, cette rumeur qui est sortie comme quoi il va être transféré à West Bromwich Albion, qui est un club de Championship, donc de Division 2 anglaise, est sortie assez rapidement. On savait que Campbell était vraiment suivi, ciblé par les clubs européens. C'est un jeune profil très intéressant depuis qu'on l'a récupéré d'Atlanta. Et donc Campbell, pour environ 2 millions, c'est parfois les conversions entre livres, euros et dollars canadiens, US. Bon, bref, c'est autour de 2 millions du côté de George Campbell. Et oui, Marco Donadel a confirmé en conférence de presse hier que la raison pour laquelle il n'a pas participé au dernier match contre Orlando, c'est à cause de pourparlers très avancés avec un club qu'il n'a pas nommé, évidemment, mais on peut capable de faire 1+1 et de comprendre que George Campbell va être transféré, ne jouera plus. Donc ce sera le troisième transfert après Dominique Yankoff et évidemment Nathan Saliba. George Campbell va évoluer sur d'autres cieux.
Et là, la question, tu me parles du 2 millions de dollars ou de pounds de transfert. Est-ce qu'il va être réinvesti, ce 2 millions-là?
JP, c'est la grande question qu'on se pose depuis assez longtemps. Depuis, je te dirais même depuis 2002, on se la pose cette question-là parce que Mihailovic, Kone, Johnston sont partis à grands frais et puis on n'a pas senti que le réinvestissement s'était fait dans l'effectif. On peut parler de dettes à éponger, de dépenses et autres, très bien. Mais c'est aussi pour cela que des Hassoun Kamara vont être importants pour nous expliquer qu'est-ce qu'on fait, comment est réinvesti cet argent, c'est quoi aussi les enjeux. Atlanta a une portion du transfert, donc parfois c'est aussi nous expliquer que vous voyez écrit 2 millions, 4 millions quelque part, mais c'est pas 4 millions sonnantes qui sont dans nos poches. Il y a aussi de l'argent qu'on doit XYZ et qu'on doit leur remettre. Donc bref, dans l'idée tout de même, il faut qu'il soit réinvesti. On a été clair du côté de Gabriel Gervais en conférence de presse qui a été faite il y a quelques semaines. Le mercato va être un moment clé dans lequel on va être agressif, on va aller se renforcer, on va chercher des éléments pour que cette équipe soit meilleure. Donc, assurément, on s'attend à ce que les retours de Yankoff, de Saliba et donc de Campbell servent au club pour ce mercato-là.
Alors, parlant de transfert, il y a eu des transferts également dans l'industrie médiatique. Donc, BPM Sport a transféré son ancien directeur général au CF Montréal dans un rôle de... Je ne veux pas me mélanger dans le titre exact, là, mais c'est directeur des communications. Là, en gros, c'est pas mal ça pour notre ancien directeur général, Alex Panton. Et il y a même un transfert de Radio-Canada vers le CF Montréal, alors que Hassoun Kamara, un visage bien connu des amateurs de foot, retourne avec le 11 montréalais. Moi, j'ai salué ces deux décisions-là. Un, parce qu'Alex est un ami, c'est un bon gestionnaire de sport. Alors, j'étais content de le voir avec le CF. Mais Hassoun Kamara, ça, je trouvais que c'était un bon coup. Parce que Hassoun est très proche du public québécois et montréalais. A été quand même une figure emblématique du CF là, ses premières années. Sauf erreur, il fait partie de la première édition du CF de l'Impact en MLS. Alors,
leur rentrée en 2012.
Exact. Alors, tu sais, c'est quand même un pionnier. Et j'ai senti au cours des derniers mois une cassure entre le message que le club tente de passer et les amateurs. Puis s'il y a un gars qui va être bon pour faire le pont entre les deux... C'est bien sûr. Est-ce qu'on va y donner par contre la latitude de le faire et toute la capacité de transparence? Ça, c'est à toi de me le dire.
Alors, c'est pas lui qui fait le recrutement. Donc, au niveau de l'ambition terrain qui semble être peut-être un peu moins agressive que par le passé, on a quand même un passé avec des Divayo, des Nesta, des Drogba, et comme Piatti, j'en passe. Peut-être que sur cet aspect-là, il faudra un peu faire le deuil de joueurs très expérimentés avec.
De une fête. défaite, d'une start.
Oui, c'est ça. Donc, comme de ce type de joueurs-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire les vedettes. Tantôt avec Jacob, quand on parle de Escobar, quand on parle de Sinchuk, comme on peut les bâtir, ces vedettes-là. Ça peut être des joueurs. À la fin de la journée, si genre, comme Sinchuk te fait une saison 2026 avec genre, comme 15 buts, 12 passes, il va devenir une vedette montréalaise. C'est pas parce qu'il venait de D2 ukrainienne que ça l'empêchera de le venir. Hormis des très grands spécialistes du football argentin, pas grand monde connaissait Piatti avant qu'il arrive ici à Montréal. Mm-hmm. Et c'est devenu la vedette. Donc ouais. Ça, pour le coup, je m'en fais moins. Mais le mot-clé que tu as utilisé, cette cassure, cette déconnexion qu'il y a, qu'on sent, qu'on ressent, mais qui parfois même s'agrandit entre les dirigeants et le public, ça, c'est vraiment là où Hassoun est là pour faire le pont. Et ce pont-là, il est capable de le faire pourquoi ? D'une part, parce que c'est une personne qui est extrêmement empathique, mais qu'il a le pouls de la population. Il les entend, ses frustrations, ses colères, cette façon de s'exprimer qu'ont les gens envers lui. Il leur parle et il est capable de parler avec un langage qu'ils vont comprendre. Parce que même si le message est de nous dire d'être patient, nous étant les personnes qui sont autour de l'effectif, ben je pense que ce message-là, il faut que quelqu'un ait le courage
pour le véhiculer.
La capacité de le véhiculer. Et on va s'attendre de ça, de Hassoun, mais au-delà de patcher, parce que là, on est un petit peu justement dans du patchage, c'est aussi d'amener quelque part, d'amener plus loin dans une vision de à quoi on veut que ressemble le CF Montréal. Un CF Montréal qui soit local, qui soit attrayant, qui soit excitant. C'est à lui de nous amener dans cette vision-là, avec Alexandre évidemment, et ce sont des bonnes personnes pour le faire.
Parce que bon, tu m'as appris tantôt que tu l'as reçu sur YouTube lors de votre avant-match, mais tu m'as appris qu'il avait entrepris ses fonctions. Là. Je sais qu'Alex, son arrivée avec le club attendait un petit peu. Là, je pense qu'il partait en vacances, je ne sais pas trop quoi, mais Hassoun, c'est drôle, je ne l'ai pas entendu sur beaucoup de plateforme. Est-ce que je me trompe ou il a été relativement discret depuis son arrivée en poste?
Alors, Alex et Hassoun ont fait au fond des filets avec Olivier.
Ouais.
Vraiment à leur arrivée, enfin, en tout cas leur annonce. Ils ont aussi fait un 5 à 7 du côté de RDS. Et avec nous, on a eu la chance de le recevoir donc, dans notre avant-match. Maintenant, ça fait un peu le tour et la presse, excuse-moi, de leurs apparitions. Mais du côté d'Hassoun, en ce moment, le travail, je sais qu'il est en train d'accomplir, c'est un travail d'écoute. La question qu'il pose le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Comme, qu'est-ce qu'on devrait changer? Et en ce moment...
Je veux pas t'interrompre, mais c'est un peu ce que Gabriel Gervais s'était donné comme mission lorsqu'il était arrivé avec le club. Puis c'est comme si on... Sans dire que lâcher la tâche, là, mais on dirait qu'il
le
fait
où,
moins.
Ben, c'est là où je pense qu'ils ont un rôle clé à Hassoun et à Alexandre, c'est de mieux raconter. Objectivement, c'est un club dont les abonnements de saison ont augmenté. L'assistance moyenne aussi a augmenté. Le nombre de partenariats autour du club a augmenté. La qualité de ce qu'on voit dans les coursives, dans les activations a augmenté. Il y a beaucoup de choses qui vont bien, mais on les raconte tellement mal. Aussi parce qu'il y a un contexte sportif qui n'est pas forcément le plus approprié. Et c'est là où ton département des coms, des marketing, des storytelling, des narratifs, ayant comme des activations, des influences et autres, embarque. Pour mieux te raconter ce qui va bien. Parce qu'en ce moment, on a juste à regarder la fiche et on se dit ce club il va nulle part. C'est pas vrai, c'est pas le cas, mais il faut des personnes qui sont capables de nous le raconter.
Et dans le storytelling, il y a également l'accessibilité aux produits. Puis là, je t'amène sur un truc, je pense qu'on s'en est jamais parlé tant que ça, mais le deal de la MLS avec Apple TV, puis je comprends où s'en va la ligue, où s'en va la business et où s'en vont toutes les ligues professionnelles. Mais on se fera pas de cachette. À l'heure où on se parle, c'est pas tout le monde qui a Apple TV et c'est pas tout le monde qui se paye le forfait soccer de Apple TV. Alors, de l'époque où on avait tous les matchs sur le câble avec TVA Sport et RDS, là, je sais qu'il en reste une douzaine du côté d'RDS, mais tu sais, il y a quand même une vingtaine, c'est pas plus, de matchs qui ne sont plus accessibles via câble. Est-ce que je me trompe ou ça aussi? Tu sais, l'expression « loin des yeux, loin du cœur », le deal, aussi avant-gardiste soit-il, a fait mal à cette connexion avec le public.
Oui, puis du côté du CF Montréal, on aurait dû se garder une gêne. C'est vrai que c'est une des équipes aussi par le fait français et un particularisme qui est très important dans comment on analyse tout ça. Une des équipes qui a peut-être le plus souffert de ce deal-là. Maintenant, il faut aussi raconter toute l'histoire. C'est 2,5 milliards sur 10 ans que Apple investit. C'est la capacité d'aller chercher tous les marchés à l'international.
Messi, sauf erreur, il y a de l'argent là-dedans
c'est
aussi.
C'est Messi. C'est beaucoup de choses qu'on est capable de mieux raconter. Et je pense que le Zef Morales est parti un peu sur le mauvais pied en disant un petit peu du petit coin de la bouche que finalement, oui, on aurait aimé ça, que ça reste un peu plus linéaire avec soit un binôme RDS-TVA ou genre, comme tout sur l'un ou l'autre. C'est pas vraiment le point. Je pense que ça a parti mal la relation et comment on ressent Apple. Parce que par exemple, nos derniers matchs, on recevait plein de messages qui nous disaient, nous, alors qu'on fait la diffusion sur BPM, ça marche pas Apple, ça marche pas. Oui, mais très bien, mais écoute la radio.
Écoute-nous.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il faut arriver à mieux raconter qu'est-ce que apporte Apple d'un point de vue de revenus, d'un point de vue de type de contenu qu'on peut trouver sur la plateforme. Et ça, c'est un travail que eux ont à faire. C'est là où je pense que c'est très important que eux, ça arrive à dire, oui, c'est vrai, ça a changé. Pourquoi ça a changé? Qu'est-ce que ça nous apporte d'être sur Apple? Qu'est-ce que financièrement on fait maintenant grâce à ce nouveau deal? Ça, encore une fois, ça fait partie des dossiers qui sont à attaquer parce que de toute façon, tu parles de ces 14 matchs qu'il y a sur RDS, genre comme je le sais, mais il est possible qu'à un moment donné, il n'y en a plus. Genre comme c'est que ce soit une transition simplement et que ce soit tout numérique, tout en streaming du côté d'Apple.
Ben en tout cas, la bonne nouvelle, Sidney, c'est que tous les matchs sont présentés sur les ondes de BPM Sport. Fait que ça, les amateurs n'ont pas à se poser la question, n'ont pas à se questionner si un match du CF y est sur nos ondes, autant ceux à domicile que sur la route, comme c'est le cas ce soir.
Oui, oui, comme on sera présent. Je serai présent avec Julien Cohen-Arazi, qui va suppléer Jasmin Leroux ce soir. Donc, on a ce fun-là. Mais l'accessibilité, elle se trouve aussi dans différentes choses. Avec Jacob, on travaille fort sur les avant-matchs YouTube dans les coursives. Tu sais, d'avoir des joueurs dans ces avant-matchs-là, d'avoir l'accès, par exemple, aux sonneurs de cloche, ou à des partenaires, à toutes sortes de personnes qui peuvent rendre encore cet événement encore plus festif.
À Sœur Angèle, j'ai vu que Sœur Angèle a sonné à la cloche l'autre fois.
Je pense qu'elle a fâché Messi. Hein.
Écoute.
La dernière fois, il jouait pas à ce niveau-là.
Ah non, c'est ça. Écoute, Sœur Angèle a des pouvoirs qu'on n'a pas nous autres. Là,
non, mais l'idée, c'est vraiment l'accessibilité, elle se situe à différents niveaux. Je peux comprendre cette frustration, mais en même temps, c'est un changement qui est tellement global. On parlait d'Azone, d'Amazon, des Netflix. Tout le monde est dans le sport maintenant. Et puis, c'est vrai que...
C'est inévitable. C'est inévitable. C'est juste, puis je le disais hier, ça aurait pris une transition. Puis je fais le lien avec la voiture électrique. Je pense que dans 20 ans, 25 ans, tout le monde va conduire une voiture électrique. Mais du jour au lendemain, de dire tout le monde, on chauffe un char électrique, je pense que ça prend une zone grise. Ça prend une période de transition. Ce que n'a pas pu bénéficier beaucoup le CF Montréal.
Non, et pour le coup, le CF Montréal a perdu énormément parce qu'il y avait une double couverture de ces deux réseaux sportifs. Et, ouais. Et là, tout d'un coup, tu passes un petit peu genre comme du jour à la nuit.
Et écoute, commentaire de Joe sur la messagerie texte qui dit je préfère écouter le foot sur BPM Sport que l'écouter à Apple TV.
Ah,
là,
merci Joe. Hey, merci. Alors, même s'il y a des fonds, Fred et Vincent font un excellent travail. Merci beaucoup, Joe.
Tout à fait. On les salue d'ailleurs. Cyd, un gros merci pour ton passage en studio. Bon après-midi, parce que tu vas aller préparer tes cartons, tes statistiques, tes papiers, je suppose.
Exact.
Bon, ben on te laisse aller te préparer et on t'écoute ce soir. Le match est 19h ou 19h30?
Coup d'envoi 19h37.
19h37.
Mais, l'avant-match, on est là dès 19h pour vous mettre la table sur le match.
OK, bon, on sera là à compter de 19h. Merci Cyd. Alors, c'était Sidney Fowo qui est l'analyste des matchs du CF sur les zones de BPM Sport.